qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français, à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Offcast. Je suis Noémie Kempf, la créatrice de The Storyline. The Storyline, c'est un podcast qui part à la rencontre des créateurs de contenu qui se cachent derrière les plus belles boîtes, comme The Walt Disney Company, Deezer ou encore Itch, pour décrypter leurs secrets de storytelling et de content marketing. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à l'écouter sur thestoryline.fr. Mais aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Guillaume, le cofondateur du podcast Spoilers. Bonne écoute! Salut Guillaume!
Salut!
Ça va?
Très bien, et toi?
Super, super! Écoute Guillaume, pour commencer, j'ai une première question pour toi. T'es prêt?
Je suis prêt.
Guillaume, qui es-tu?
Vaste question! Donc, je m'appelle Guillaume Jeuneste, je suis, designer dans la vie civile d'expérience utilisateur, pour ceux à qui ça va parler. Et à côté de ça, j'anime un podcast qui s'appelle Spoilers l'émission, dont le but est un petit peu de mêler séries télé de science-fiction et fantastique avec la recherche universitaire qui a comme un peu fond de commerce, on va dire, l'expérience sérielle et le monde de la série de manière générale. Voilà.
Ah, mais tout fait sens. Donc, du coup, tu mélanges un peu ton expertise professionnelle à un sujet un peu plus d'entertainment qui est celui des séries, la science-fiction, etc.
Ouais, complètement. C'est vrai que ça vient un petit peu de là. Et puis, c'est aussi la rencontre avec mes co-animateurs de Spoilers d'émission, notamment Briac Picaralec, qui est donc doctorant dans l'univers de la série et qui est aujourd'hui en train de réaliser une thèse à ce sujet. Et donc, notre rencontre a un petit peu donné lieu à cette passion qu'on a de, un côté, la culture pop et de l'autre, ce qui se cache un petit peu derrière nos séries favorites en termes de messages, en termes de réflexion sur la société d'aujourd'hui et puis de comment on peut utiliser la science-fiction et le fantastique pour parler de faits de société notamment, mais pas que quoi.
Ok, j'ai plusieurs questions, mais peut-être la première pour commencer. Donc vous êtes combien derrière le micro de Spoilers ?
Spoilers, du coup, c'est une équipe de 3 personnes. Aujourd'hui avec Charles qui est un petit peu l'animateur de l'émission, qui va être là pour un petit peu passer la parole et puis interviewer les invités quand on en a, et donc Briac qui de son côté va avoir plutôt l'aspect justement universitaire, qui va revenir sur des showrunners en particulier ou sur des séries cultes, et puis moi qui suis un petit peu l'amateur éclairé et qui va bien souvent chercher à faire de la pédagogie, à vulgariser l'univers du coup de la série télé et tout le vocabulaire qu'il y a autour notamment.
Très bien, ok, un trio de choc hyper complémentaire.
Exactement.
Et donc du coup le podcast fonctionne comment, vous faites, tu parlais d'invités, est-ce que vous avez systématiquement des invités? Je pose une question, j'ai déjà un peu regardé de mon côté quelques épisodes, mais du coup j'ai l'impression que les formats varient un peu.
Ouais, complètement. Déjà, l'émission est assez jeune puisqu'on a commencé fin 2019. Aujourd'hui, en fait, l'émission, faut savoir que c'est un format radiophonique puisqu'on enregistre au sein d'un studio radio, de la radio Canal B, qui est donc une studio associative rennaise. Qui nous accorde un temps d'antenne qui est mensuel, donc tous les mois on propose une émission on a commencé avec un format d'une heure et demie où on alterne chroniques sur divers sujets. En fait, de toute façon, l'idée c'est d'essayer de ne pas faire d'actualité à proprement parler, mais plus de sujets de fond. Ça, c'est un petit peu la trame générale de l'émission. Et c'est un petit peu comme ça que sont articulés les premiers épisodes. Et puis, effectivement, l'idée aussi, comme je pense pour beaucoup de podcasts, c'est d'utiliser l'émission pour pouvoir échanger avec des gens qui sont inspirants et des gens qui nous racontent un petit peu leur parcours dans cet univers de la série télé et de la recherche universitaire. Et donc on a comme ça régulièrement des invités qui sont issus de ce milieu-là ou alors qui sont issus potentiellement d'autres podcasts qui parlent spécifiquement d'un univers sériel en particulier. Bon, ce qui s'est passé ces derniers mois et avec le confinement et l'épidémie a fait aussi qu'on a dû un petit peu changer notre format pour continuer à proposer du contenu tout en étant confiné, où là on s'est un petit peu plus orienté vers un format de recommandation, on va dire, où on va essayer de se retrouver un petit peu dans la jungle de la série télé et des différents services de streaming pour recommander des séries qui sont, à nos yeux, intéressantes à regarder.
Wow, ok. Donc,
aujourd'hui, on a un petit peu ces deux formats-là qui coexistent, puisque, on va dire que, du coup, les émissions classiques sont en train de se remettre en place petit à petit et on a notre format un peu plus recommandation qui continue de vivre à distance, on va dire, à côté, quoi.
Ok, cool. Bah, très pertinent, surtout à une période où on prend plus le temps de regarder Netflix et de rester...
Complètement.
Belle adaptation au contexte. Du coup, je me demandais comment tu vas décider de tes sujets, comment tu vas identifier tes invités, est-ce que vous avez une ligne éditoriale que vous respectez ou vous faites plutôt ça au feeling au fur et à mesure des épisodes ?
Ouais, bah du coup comme je l'ai dit, on essaie de pas être forcément dans l'actualité déjà. Donc ça c'est une première réponse. Et ensuite, donc bah comme on est trois, on discute énormément effectivement sur ce qu'on a envie d'apporter. On a vraiment envie de faire en sorte que on apporte des informations nouvelles ou en tout cas un petit peu différentes dans l'univers de la série télé. C'est vrai que cet angle de la recherche nous permet comme ça de notamment faire croiser le média sériel avec d'autres médias que sont la littérature, le cinéma, parfois le jeu vidéo. Donc on essaie comme ça d'avoir une espèce de regard transversal pour voir ce que chacun des médias apporte l'un avec les autres. Et puis notre angle principal quand même, ça reste la série de science-fiction et fantastique, puisqu'on est tous férus du coup de ce genre, de ces genres-là de l'imaginaire. en particulier, et c'est vrai que du coup, c'est ça aussi qui nous drive pas mal dans le choix de nos sujets quand on réfléchit à nos épisodes, quoi.
D'accord.
Donc, on essaie d'élaborer des grandes thématiques et aussi de souvent mettre en valeur, soit des auteurs, soit des séries qui sont méconnues ou alors peut-être qui sont vues comme étant. Peut-être un petit peu grand public ou en tout cas plus anecdotique, là où derrière il y a un vrai fond intéressant, un vrai propos d'auteur, notamment la question de l'auteur qui est quand même super importante dans la série vu qu'il y a énormément de scénaristes qui réalisent les histoires, etc. On se pose souvent la question de qui est l'auteur derrière la série et quel est un petit peu les gimmicks de cet auteur, comment ils transparaissent dans les différentes séries que cet auteur a pu faire, quoi.
D'accord. Ça me fait penser quand tu parles justement d'un message derrière la série, derrière l'entertainment. À titre perso, celle qui m'a le plus marquée, c'était l'année dernière, mais je pense que c'était The Handmaid's Tale. côté dystopique, mais un vrai questionnement sur l'évolution de la société, la place de la femme, etc. Toi, est-ce que tu as une série, une petite pépite du moment à conseiller aux auditeurs? Quelque chose qui t'a vraiment marqué ces derniers temps?
Ouais, alors je pense la série qui, à titre personnel, on va dire, sans du coup consultation avec mes camarades de Spoilers, que je pourrais recommander très clairement aujourd'hui, c'est donc Dark, qui est en train de vivre sa dernière saison, là sa troisième saison sur Netflix, qui est une série allemande et qui, je trouve en tout cas, sur 3 saisons de 8 épisodes, a vraiment su réinventer ou en tout cas explorer à fond le concept de voyage dans le temps et de paradoxe temporel, et donc derrière forcément un peu cette notion de destinée, est-ce qu'on a un destin, comment on peut s'affranchir de là d'où on vient et comment on peut réussir à casser un petit peu peut-être ce que la vie nous force à être. Donc il y a tout un message comme ça dans la série que je trouve super intéressante, et puis ce qui est assez cool, c'est que c'est une série avec des acteurs tout à fait inconnus, donc on a vraiment un aspect très nouveau et très immersif dans cette série-là. Et je dirais peut-être d'un point de vue plus sociétal, la série qui est un peu moins nouvelle, mais qui a été diffusée l'année dernière, qui est Watchmen de Damon Lindelof, qui est disponible aujourd'hui là sur OCS, où on a un vrai sous-texte sur la discrimination raciale, sur la place des communautés afro-américaines dans la société d'aujourd'hui, et qui presque 6 mois avant tous les événements qu'on peut connaître aujourd'hui, était malheureusement énormément d'actualité. Et je pense que là aussi, du coup, le fantastique et la science-fiction permet d'aborder ces thèmes qui sont très sensibles d'un point de vue hyper intelligent et hyper intéressant, sous couvert de divertissement ou en tout cas de spectacle visuellement impressionnant, quoi. Donc ouais, ces 2 séries-là, je pense, à conseiller.
J'adore. Bah, j'ai pas regardé Watchmen, mais Dark, j'ai pas encore terminé la saison 3, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi l'histoire. Peut-être une critique à faire dessus, mais une petite critique, justement, vu qu'on connaît pas les personnages et qu'il y en a beaucoup et qu'il y a des liens extrêmement... pas tordu, mais extrêmement, extrêmement twisté entre eux. Mmh. Je trouve ça presque un peu difficile de suivre l'intrigue si tu ne regardes pas tout d'un coup et de te souvenir des liens entre les uns et les autres, puisque les liens sont quand même, vu qu'ils voyagent dans le temps et qu'ils font des trucs 10 ans avant, 10 ans après, c'est un peu compliqué de suivre si tu t'accroches pas un peu.
Mais, ouais, c'est la grosse critique qu'on peut faire à cette série, et on voit souvent effectivement sur les réseaux sociaux des gens qui décrochent un petit peu, ce que je peux comprendre complètement. C'est vrai que c'est une série, j'aime pas forcément le terme exigeante, parce que derrière il peut y avoir un peu une connotation genre il y a des gens qui comprennent et ceux qui comprennent pas, c'est pas ça, mais dense en tout cas, et qui peut être rebutant parce qu'ils y vont vraiment à fond là-dessus, et c'est vrai que ça peut être compliqué à suivre. Mais ce que je trouve assez phénoménal avec cette série, c'est que justement il y a, bon, on va dire, une grosse dizaine de personnages que l'on va suivre sur différentes époques, et il y a eu un vrai travail de casting qui est assez incroyable pour trouver des acteurs qui, en étant ados, dans la quarantaine et plutôt âgés, ont des vrais traits physiques en commun, alors qu'évidemment c'est pas du tout les mêmes acteurs, il n'y a pas de maquillage, ils ont vraiment fait le choix de choisir des acteurs différents. Donc je trouve ça assez passionnant, même en termes de production, on va dire, de voir comment ils s'en sont débrouillés pour créer quelque chose qui soit vraisemblable malgré ce casting qui est hyper, hyper riche, quoi.
Je suis d'accord, et un truc que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié pour finir sur Dark, c'est la scénographie et l'univers qu'ils ont réussi à créer. Il y a un côté une forêt, un petit village perdu au milieu de l'Allemagne, un côté un peu angoissant, presque mystérieux, mais pas tant que ça, parce qu'au final ça reste un peu de la science au final, même si c'est le voyage dans le temps, et j'ai été vraiment emportée par cette série. Mais ça m'amène sur une autre question que j'ai pour toi. Tu disais que la science-fiction au final permet toujours de passer des messages de société. Moi j'ai entendu dire que enfin, c'est quelque chose qui est sorti pendant une conversation, que la science-fiction était aussi le reflet des préoccupations de la société à un moment donné. Est-ce que c'est quelque chose que tu... Et je m'explique, par exemple, il y a quelques années, j'ai l'impression qu'on parlait de vampires et de loups-garous. C'était vraiment la grande période des vampires et de loups-garous. Avant ça, il y avait plutôt les elfes, les trolls, etc. Il y a le Seigneur des Anneaux, machin. Il y a des périodes, au final, avec des sujets, des univers qu'on va adopter et qu'on va poncer un peu. Il y a plein de séries qui vont naître autour de ce sujet. Et puis, finalement, on va passer à autre chose. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est plus dans les dystopies, les fins du monde, etc. Est-ce que ça dit quelque chose sur notre état d'esprit actuel? Est-ce que...
Ouais, je pense y a clairement un rapport qui peut être à effectuer. Bon, déjà, ce qu'on peut voir sur les dernières années, c'est qu'il y a clairement un développement des univers de l'imaginaire qui se fait, que ça soit à travers la fiction ou à travers des événements dans la vraie vie, entre guillemets, avec des festivals comme les Imaginales ou autres, où on est vraiment face à une entrée un peu plus grand public de ces cultures populaires et issues de l'imaginaire où on anoblit peut-être un petit peu aussi ça, alors qu'avant c'était peut-être considéré comme quelque chose d'un peu plus de niche, associé on va dire à cette communauté de gens qu'on appelle les geeks, voilà. Donc là il y a déjà peut-être une envie de la part des gens de manière générale à découvrir d'autres univers, à s'échapper du coup peut-être de la réalité dans ces autres univers, avec aussi la revalorisation d'auteurs assez cultes. C'est vrai que tu parlais de, du coup, des elfes, des orques, tout ça, c'est clairement l'adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma par Peter Jackson il y a quelques années, qui a donné un peu ses lettres de noblesse à ces univers-là, alors que Tolkien avait écrit ça il y a bien longtemps, au début du 20e, mais... je crois qu'il y a des moments comme ça où en effet il y a des auteurs qui arrivent à s'approprier le matériau d'origine et puis à le transmettre à une plus grande audience, et on voit aussi que dans les plateformes de streaming et dans la série en particulier, c'est la science-fiction et le fantastique, c'est un genre qui est aussi énormément représenté, quoi. Soit de manière très partielle, c'est-à-dire que ça va vraiment être juste un gimmick. Je pense par exemple à Outlander, qui sur du coup Netflix raconte l'histoire d'une infirmière dans les années 30 qui va être projetée à la fin du 18e siècle pour par le biais d'un élément fantastique et qui va derrière du coup vivre rencontrer la communauté des Highlanders en Écosse. Au final l'aspect fantastique est vraiment minime, on va dire, par rapport à ce que fait la série, mais à chaque fois on voit que il y a ce petit élément fantastique qui permet comme ça de réinventer aussi, j'ai l'impression, la narration et le schéma narratif qu'on peut connaître, quoi. Donc je pense que ça permet aussi aux auteurs de se renouveler et puis de capitaliser sur le fait que ces codes-là sont un petit peu plus assimilés par l'audience et générale, et il y a un peu moins de, on est un peu moins réfractaire à ça, quoi. Et le troisième truc que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que en effet ces dernières années on s'est beaucoup on a vu beaucoup aussi fleurir la dystopie, les mondes post-apocalyptiques, parce que je pense qu'il y avait justement une vraie crainte de ce qu'allait devenir le monde avec toute l'angoisse écologique, etc. Et que d'ailleurs il y a beaucoup de conférenciers qui le disent, hein, quelque part peut-être que on n'arrive pas à se motiver plus que ça dans le changement de société parce que c'est un fantasme, le fantasme de ce monde post-apocalyptique qui est traité par les auteurs. Quelque part, on le rend un peu presque romantique, même si en général il est plutôt plutôt noir, mais le fait de le faire passer un peu par le filtre de la fiction le rend justement un peu plus irréel, quoi. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est de voir que aujourd'hui, là, en 2020, alors qu'on vit quelque part avec l'épidémie et puis le confinement, on a vécu un peu presque un avant-goût de ce que ça pouvait donner, de cet univers dystopique, post-apocalyptique. Il y a des auteurs de science-fiction qui commencent justement aujourd'hui à dire qu'ils vont avoir besoin de renouveler l'imaginaire pour aller vers d'autres projections de société. Peut-être des projections plus positives pour le coup, justement parce que aujourd'hui on est en train de vivre en fait cet univers post-apocalyptique et que on va devoir réalimenter notre imaginaire par d'autres choses que malheureusement des trucs qui peuvent être un peu plus réalistes aujourd'hui. On peut penser aussi à Black Mirror par exemple, avec un peu cette phobie technologique ou cette accélération technologique qui aujourd'hui fait pleinement partie de notre quotidien, quoi. Donc oui, il y a un vrai entremêlement effectivement entre ce qu'on peut proposer de ce point de vue là et ce qu'on peut vivre, et un vrai phénomène d'action-réaction, je pense.
C'est intéressant. Bah, alors attends, prenons les paris. À ton avis, qu'est-ce qui va prendre la place de la dystopie dans les années à venir ? Et les auditeurs, si vous avez envie de jouer avec nous, envoyez ça sur Offcast. Donnez-nous votre avis.
Moi, je pense clairement que... Ouais, vas-y, t'allais dire.
Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, moi, je parie sur la conquête de l'espace qui va revenir.
Ouais, ça fait partie effectivement des imaginaires très forts, parce que là on voit que du coup la conquête spatiale est vraiment en train de se redévelopper, et il y a de vrais acteurs comme du coup SpaceX qui sont en train de recréer tout un imaginaire, et notamment du coup Elon Musk, mais tout un imaginaire autour de ça. Moi j'aurais tendance à vraiment croire au fait que demain on va avoir un vrai regain de positivisme, on va dire, dans la projection qu'on fait du futur, et peut-être d'imaginer non plus le monde d'après, mais quelque part le monde d'après après. C'est-à-dire que aujourd'hui on voit certains auteurs qui travaillent autour de la notion de post-apocalyptique, c'est-à-dire vraiment, en fait, la société s'est effondrée, ok, on n'a pas pu y faire grand-chose, et elle s'est réorganisée sur les ruines de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors c'est souvent des univers où du coup les villes telles qu'on les connaît, avec ses gratte-ciels, sont complètement en ruine et envahies de végétation. Les animaux ont repris un peu le pouvoir et les sociétés humaines se sont un peu réorganisées en petits groupes puis tribaux. Enfin, il y a une vraie tendance à ça ces dernières années. Donc je pense que ça va être un peu peut-être cette utopie de l'écologie qui devient un petit peu fondatrice, on va dire, de la société de demain aussi, qu'on va peut-être voir fleurir de plus en plus dans cet imaginaire-là, quoi. Ah, on va voir.
Ça me fait penser à I Am Legend.
Ouais, il y a ça, effectivement. Pas dans un univers sériel, du coup, mais il y a une bande dessinée qui s'appelle La Mécanique Céleste, qui est sortie l'année dernière, qui traite aussi de ce sujet-là, qui est super intéressante et amusante, mais qui montre que comment aussi on peut perdre quelque part l'imaginaire, mais aussi un peu la culture d'une société pour en créer une nouvelle et transformer un peu les choses pour faire du monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui une espèce de légende sur laquelle derrière les gens vont s'inspirer, ou au contraire avoir peur pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, quoi.
C'est beau.
On croise les doigts.
En effet, on croise les doigts. Moi, je serais preneuse de faire un petit tour dans l'espace aussi. J'aime bien tout cet univers.
Complètement.
Du coup, pour ce qui est du podcast et de Spoilers, qui sont les gens qui t'écoutent ? Qui sont tes auditeurs ? À quoi ressemble ta communauté ?
Alors, en fait, ça me permet du coup de revenir sur un peu le pourquoi aussi à la base on a créé Spoilers l'émission. En fait, Spoilers à la base c'est un festival à Rennes sur du coup la série de science-fiction et fantastique. On a réalisé une première édition il y a 2 ans maintenant, et dont on est en train de réfléchir à monter la deuxième édition. Et l'émission a vraiment été le moyen de faire vivre l'univers Spoilers entre les deux éditions du festival, quoi. Et en fait, assez naturellement, je pense que notre communauté aujourd'hui, ça va être les gens qui nous ont suivis dès le départ, donc on va dire plutôt une communauté assez locale par rapport à Rennes, parce que du coup, c'est vrai qu'on a pas mal tourné, notamment auprès des universités, auprès des chercheurs, parce qu'il y a une grosse communauté de chercheurs dans cet univers spécifique à Rennes. Donc on va avoir ce premier, je pense, groupe-là qui va du coup être les gens à qui on s'adresse. Et puis de manière un peu plus générale, on va s'adresser aux gens qui sont fans d'univers de l'imaginaire et de séries télé. Donc là, j'ai envie de dire que c'est quand même beaucoup plus large, puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Donc on va toucher tous ces gens aujourd'hui qui s'intéressent à ça, avec peut-être quand même quelque chose qui est relativement spécifique à une certaine forme d'intérêt pour creuser la manière dont les séries ont été fabriquées, qui se cache derrière, comme je le disais, la notion de l'auteur et tout ça. Donc, des gens qui vont avoir envie d'aller un petit peu au-delà du simple divertissement pour en apprendre plus sur ces univers qu'ils aiment, potentiellement découvrir les gens qui les ont fabriqués pour pouvoir les suivre derrière sur d'autres productions. Donc voilà, et puis comme on est sur un format un peu long, 1h30, je pense qu'on est sur plutôt des gens qui ont une écoute qui va être vraiment attentive et sur lequel ils vont avoir un vrai investissement sur le long terme, on va dire.
D'accord, trop bien. En effet, c'est vrai qu'une heure et demie, c'est un format, faut être motivé.
Ouais.
Et du coup, comment tu la développes, cette communauté? Comment tu fais connaître le podcast?
Clairement, aujourd'hui, on n'a pas une stratégie très, on va dire, professionnelle par rapport à ça. D'ailleurs, moi, j'ai aucun problème pour me revendiquer de la sphère, on va dire, des indépendants du podcast. À Rennes, on a une grosse communauté indépendante du podcast. On a vraiment beaucoup de gens qui... cultive un petit peu ce podcast amateur fait chez soi et avec un petit peu les moyens du bord. Et notamment, on a un festival à Rennes qui s'appelle Pod Rennes, où justement, on cultive vraiment ce côté très entraide et très accessible du podcast, avec des podcasts en live, avec des rencontres, avec ce qu'on appelle une pod jam, où les gens peuvent venir pitcher leur podcast et dans le week-end réaliser un pilote. Okay. Donc, du coup, voilà, il y a ce truc-là où on est plus sur le côté passion que le côté vraiment professionnel ou très réfléchi. Et puis, bah, comme on a tous aujourd'hui chez Spoilers un travail aussi à côté, on fait aussi avec le temps qu'on a. Donc aujourd'hui, on essaie principalement de développer la communauté sur les réseaux sociaux. On est quand même présent un peu partout, clairement, hein, comme beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Twitter qui va être notre principal relais, et puis là où les discussions peuvent être les plus immédiates, les plus partagées. Parce qu'il y a une relative accessibilité des choses, et les gens n'hésitent pas... pour le meilleur ou pour le pire, à donner leur avis sur Twitter. Donc, du coup, c'est là où on va travailler principalement à notre communauté. Et puis, on a des envies aussi d'investir un peu plus YouTube, parce que c'est vrai que le podcast permet... alors déjà, on propose nos émissions sur YouTube dans un format purement audio, mais c'est vrai qu'on a envie d'explorer un petit peu la possibilité d'y adjoindre des éléments visuels, soit à travers, on va dire... un montage visuel, photographique ou vidéo de ce qu'on peut raconter dans notre podcast pour l'agrémenter, soit clairement faire des petites chroniques spécifiques issues du podcast avec, par exemple, un invité dans un cadre un peu plus filmé. Bon, ça, c'est les projets à venir pour développer la marque Spoilers et toujours essayer de toucher un plus grand nombre de personnes sur les différentes plateformes. Quoi.
Cool, ça. Surtout que votre sujet prête quand même à... Vous parlez quand même d'univers de séries, d'univers d'histoire, etc. Ça prête au format vidéo et au multimédia, c'est cool.
Complètement, avec la limite que, comme on fait référence à du coup, des productions, on ne peut pas non plus montrer beaucoup de choses sous peine d'être strikés de YouTube, donc forcément, il faut faire un petit peu attention à ça. C'est un peu la difficulté, mais oui, complètement, ça a du sens, effectivement, de... proposer un contenu audiovisuel quand on parle de séries. Donc, on y réfléchit fortement. D'ailleurs, on propose aussi, et en podcast, et en retranscription, enfin en captation vidéo, les conférences et les masterclass qui ont été diffusées lors de la première édition de Spoilers. Donc, c'est aussi un petit peu ça qui a été notre, on va dire, tremplin vers le podcast. C'est de proposer en audio les intervenants qu'on avait pu avoir lors de la première édition du festival.
Ok. Bah, ça m'amène sur la prochaine question d'ailleurs, très bonne transition. Qu'est-ce que tu penses justement du paysage du podcast français? Comment est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as une idée des volumes d'audience sur nos sujets? Comment tu vois le truc évoluer?
C'est une question qui est assez difficile, je dois dire.
Certes.
Parce que c'est assez obscur en fait, l'audience, il y en a qui le communiquent, il y en a qui le communiquent pas. Après effectivement on peut le voir aussi sur selon la plateforme de diffusion, potentiellement on peut essayer de voir un peu le nombre de vues entre guillemets que les gens ont pu collecter sur leurs épisodes. De manière plus générale, j'ai l'impression quand même que le podcast en France, mais un peu partout dans le monde, se professionnalise énormément. On voit aussi donc l'émergence de formats qui sont techniquement de plus en plus qualitatifs, qui sont aussi très clairement pour les gens qui les créent une manière peut-être immédiate ou à terme d'être d'y trouver une rémunération. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a un peu aussi, je sais pas si c'est un développement, mais en tout cas, un renforcement de la scène, comme je disais, indépendante, avec ces gens qui vont défendre un peu un podcast libre, entre guillemets, ce podcast qui, presque, s'il trouve son public, c'est très bien, mais finalement, c'est presque pas le but. C'est plus de créer un moment de convivialité entre les gens et puis aussi de permettre à tout à chacun de pouvoir s'exprimer sur divers sujets. Ça, c'est un sujet, je trouve, qui est hyper intéressant aussi parce que, du coup, le podcast a ça d'intéressant quand il est fait avec passion, on va dire, enfin en tout cas sans attente particulière derrière, en tout cas pas d'attente professionnelle, de permettre à des gens qui ne seraient pas forcément très à l'aise dans l'expression, de trouver des tribunes et de pouvoir comme ça s'exercer sur de la prise de parole ou tout simplement permettre de faire entendre des voix qui sont potentiellement un peu plus invisibilisées. Donc j'ai l'impression, en tout cas de là où je suis, que va y avoir un peu des développements un peu parallèles d'un côté des podcasts plus professionnels qui vont rentrer dans des cheminements de diffusion un peu plus professionnels, dans des applications un peu plus professionnelles, dans des systèmes un petit peu plus monétisés, etc. Avec des gros acteurs qui feront beaucoup, beaucoup de vues. En France, on sait qu'il y a des gros acteurs qui drive un petit peu tout ça, que ça soit sur les différentes plateformes, en particulier sur Apple Podcast, et qui eux peut-être demain vont accéder à une rémunération, ou en tout cas qui vont proposer des formats qui permettront de générer un revenu. Je pense notamment à 2 heures de perdu ou au Floodcast qui aujourd'hui propose de plus en plus de live payant, en gros ils organisent un épisode, un enregistrement d'épisode particulier dans une scène, là, en l'occurrence c'est le Bataclan, avec entrée payante. Je trouve un format qui est hyper intéressant.
Cool.
Un autre côté du coup où il faudra potentiellement aller un peu chercher des trucs de niche, mais où on trouvera des gens qui n'auront jamais forcément une visibilité très grande, mais qui parleront de sujets qui peuvent être super intéressants et qui permettront à tout à chacun de d'avoir un peu une tribune sur certains sujets de niche à fond, quoi. Donc je vois bien un peu ce développement là sur la scène du podcast et le podcast entre guillemets du futur, avec la grosse interrogation, je pense, qui est toujours présente, c'est comment, en gros, va se développer le temps d'écoute chez les auditeurs, quoi. Parce que je trouve que c'est ça la grosse inconnue aujourd'hui, c'est quel temps les gens consacrent à l'écoute du podcast, à quel moment, quel temps d'attention ils ont aussi. Mmh. Et donc, aujourd'hui, est-ce que sur une journée, il y a des moments où potentiellement on peut se trouver un petit interstice pour se glisser dans l'oreille des gens, ou est-ce que déjà l'offre répond déjà à ça, et les gens, au-delà des, on va dire, des trajets et puis des tâches ménagères qui sont un peu les deux grands moments où les gens écoutent du podcast, n'en écoutent pas particulièrement plus, quoi.
Beau pronostic. Et encore une belle transition. Du coup, je vais te poser la question. Toi, quel type d'auditeur est-ce que tu es ? Est-ce que tu consommes beaucoup de podcasts ? Est-ce que tu les consommes avec modération ? Combien t'en écoutes ?
Je suis assez consommateur de podcasts. C'est un peu comme ça aussi à la base, que j'ai eu envie de faire du podcast, parce que j'ai commencé à en écouter beaucoup. On parlait tout à l'heure de la durée et du fait que effectivement Spoilers émission durait 1h30. Moi, je suis un consommateur. J'aime les podcasts longs. je ne m'en cache pas, je suis assez rare, on va dire, je pense, parce que autour de moi, c'est plutôt des gens qui aiment les podcasts qui n'excèdent pas, on va dire, la demi-heure. Mais moi, ça me dérange pas d'écouter des podcasts qui peuvent aller au-delà des 2 heures, au-delà des 3 heures, en fragmentant l'écoute. Hein, évidemment, ça, c'est par contre, évidemment, enfin, c'est quelque chose que je fais très facilement, de commencer quelque chose et puis de le continuer un peu plus tard. J'ai aucun problème là-dessus. Donc, je suis plutôt gourmand, on va dire, du podcast. Il y a notamment un podcast cinéma que j'adore qui s'appelle Split Screen, qui est très clairement l'antithèse, on va dire, du podcast d'aujourd'hui, parce que eux, ils proposent une émission tous les ans aujourd'hui, très clairement. C'est vraiment des gens qui font ça par passion et qui vont traiter d'un film en particulier, et c'est une émission qui va durer 4 heures parce que, en gros, ils commencent de la première idée qui a amené à faire ce film jusqu'à la sortie et les retombées, on va dire, que le film a eu sur l'univers du cinéma dans lequel il s'inscrit, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une belle proposition qui est très différente, très qualitative, et il faut prendre le temps de l'écouter, c'est sûr, mais voilà. Et après, je suis plutôt sur des thématiques divertissement, on va dire. Je pense que le podcast de référence aujourd'hui que je continue d'écouter, que j'ai pas lâché, c'est le Cozy Corner, parce que je trouve qu'il y a vraiment une belle énergie. C'est donc un podcast qui en gros, c'est deux présentateurs qui parlent de sujets de culture pop avec un mélange que je trouve assez cool, qui est première demi-heure, on va dire, où ils échangent, en fait, ces deux amis, donc ils échangent un petit peu sur ce qu'ils ont, leur vie sur les deux dernières semaines, depuis la dernière fois qu'ils ont enregistré un épisode, on va dire, donc un petit peu leurs anecdotes de vie, etc., mais toujours un peu liées à la culture populaire, etc., mais vraiment plus sur eux perso, et ensuite on est plutôt sur de la chronique assez travaillée sur un univers de l'imaginaire en particulier, et je trouve que c'est un bon mélange parce qu'il y a une vraie complicité entre les deux, et vraiment on les suit avec beaucoup de plaisir, je trouve. Et peut-être du coup le dernier aussi que j'ai écouté, que j'ai beaucoup aimé, c'était le Bureau des Mystères, qui du coup est un podcast qui revient sur des affaires étranges et mystérieuses, avec donc ces deux intervenants qui proposent chacun un mystère, avec donc c'est des journalistes qui présentent le mystère tel qu'il est, avec tout ce qu'il a d'étrange, et ensuite dans une deuxième partie qui en gros le debunk pour savoir si en fait c'est mystérieux ou pas vraiment, ou si on peut classer l'affaire et en fait savoir un peu quels sont les dessous de mystères qu'ils ont découvert, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant parce que ils jouent pas sur le côté un peu outrancier de faits divers, quoi, ça fait un petit peu peur, donc pour ceux qui veulent un petit peu se faire des frissons, c'est sympa, et en même temps derrière il y a un vrai côté analytique pour le ramener ça à des considérations plus terre à terre, et dire donc là clairement voilà ce qui s'est passé, c'est une manipulation des médias, ou là c'est des gens qui ont eu besoin de valoriser telle ou telle chose et qui ont créé autour de leur ferme, j'ai n'importe quoi, tout un tas d'éléments étranges, enfin voilà, donc c'est hyper intéressant pour voir un peu aussi les mécaniques qu'il y a derrière ces moments un peu d'hystérie collective qu'il peut y avoir autour d'événements surnaturels, quoi, ou prétendus surnaturels, quoi. Donc assez éclectique, on va dire, ouais, en termes d'audience de podcast.
Très bien, merci pour ces recos.
Je t'en prie.
Est-ce qu'il y a un guest, un réalisateur, un producteur de série que tu adorerais recevoir dans Spoilers?
Oui, ça c'est aussi l'évolution, effectivement, une évolution qu'on adorerait avoir dans l'émission. Parce que c'est clairement quelque chose qui permettrait déjà nous d'être hyper plaisant en termes de hosting, quoi, et puis je pense aussi pour notre communauté qui serait super intéressante. Alors évidemment il y a énormément de showrunners plutôt anglais ou américains qui seraient vraiment intéressants de recevoir, même si du coup il y a la barrière de la langue et un peu la question de comment on peut adapter une interview anglophone pour une audience française, avec peut-être du coup une traduction par-dessus, ou voilà, il y a quelque chose à inventer à ce sujet que j'ai pas beaucoup rencontré d'ailleurs en podcast. Mais il y aurait donc par exemple Stephen Moffat, qui est un showrunner assez connu anglais, qui notamment a été showrunner pas des toutes dernières, mais juste avant les dernières saisons de Doctor Who, qui a été un petit peu à l'origine de la, on va dire, réinvention de Doctor Who, qui est une série emblématique anglaise, puisqu'elle dure depuis 50 ans maintenant. J'en parlais par rapport à Watchmen, Damon Lindelof, qui a un parcours assez assez génial, puisque du coup, il a commencé avec Lost, il a un peu triomphé avec The Leftovers, et puis là, sa proposition pour HBO avec Watchmen, ce serait hyper passionnant, en fait, de l'interviewer, parce que lui, il a vraiment un rapport à l'écriture qui est... il a des gimmicks d'auteur, et pourtant, dans la manière dont il explique son... manière de travailler, il est vraiment beaucoup dans le collectif, quoi, puisque du coup... en France, de plus en plus, mais surtout aux États-Unis et en Angleterre, on a vraiment cette dimension de groupe d'écriture avec plusieurs scénaristes qui travaillent à la rédaction d'une saison. Et derrière, il y a le showrunner qui va un peu encadrer tout ça. Et lui a vraiment ce truc très collectif, alors qu'on ressent quand même dans ses productions un peu ses intentions à lui personnellement. Donc, ça serait génial, quoi, évidemment. Et puis... derrière, il y aurait après des grands noms, il y aurait évidemment Josh Whedon, par exemple, à qui on doit Buffy, qui est une des séries les plus étudiées aujourd'hui dans la recherche universitaire, par exemple, qui aurait beaucoup de choses à dire, je pense, aussi sur son rapport à l'écriture dans l'univers de la série. Donc voilà, ça c'est des exemples. En France, je pense que des gens comme plus peut-être issu de la scène de la web-série, parce que c'est vrai que du coup, à la télévision, proprement parlé, dans l'univers de l'ASF et du fantastique, c'est assez rare, très clairement, aujourd'hui en France, la télé, elle produit pas ce genre de format, donc il faut plutôt se retourner vers des productions web, ou alors, Netflix commence à vraiment beaucoup, Netflix et Canal+, aussi, même si, encore une fois, c'est assez timide, donc il y aurait éventuellement des gens comme François Descraques, par exemple, à qui on doit Le Visiteur du Futur, qui, du coup, qu'on avait failli recevoir à la première édition, qui serait hyper intéressant à interviewer par rapport à, justement, la manière dont lui, il a écrit sa web-série, quelles sont aujourd'hui ses... envies par rapport à ça, est-ce qu'ils comptent retourner à la télé, etc. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dans la sphère de la fiction web, il y a des choses aussi intéressantes à faire par rapport à la notion d'auteur et à ce que peut-être aussi ces gens vont devenir demain. Est-ce que c'est pas un peu les futurs auteurs qui vont dynamiter la série française demain? Moi, je le crois assez fortement, donc c'est des gens qui sont à suivre et ce serait intéressant de les avoir aujourd'hui, quoi.
Une petite exclue, ce serait cool en effet.
Complètement, ouais.
Moi, je te le souhaite. Peut-être pour conclure, est-ce que tu as une petite anecdote marrante par rapport à Spoilers, un truc à raconter, genre un truc behind the scenes qui t'est arrivé et qui soit marrant?
Alors, c'est une bonne question aussi.
On peut dire un truc pas marrant, hein, sinon, mais...
ouais, en fait, j'ai pas eu effectivement d'anecdotes particulièrement amusantes, entre guillemets, mais par contre, je peux communiquer un fail qui parlera à... Allez. Peut-être pas mal de gens, ou qui est peut-être une bonne mise en garde pour ceux qui voudraient, qui nous écouteraient, qui voudraient se lancer dans le podcast. Alors ça se rapproche, enfin c'est pas sur Spoilers en particulier, mais sur un autre podcast que j'anime qui s'appelle Salut les designers, qui est plus là dans ma sphère professionnelle, mais ça aurait pu tout à fait m'arriver sur Spoilers. En fait, en 2019, j'ai eu l'occasion d'interviewer quelqu'un qui est donc dans cette sphère du design d'expérience utilisateur, qui s'appelle Emmanuel Mariveri, qui est une designeuse assez connue. Donc j'avais un petit peu déjà le trac de l'interviewer, parce que c'était la première personne qui était, on va dire, dans ma sphère professionnelle, avec une certaine renommée. Donc derrière, je voulais vraiment faire les choses bien. C'était dans le cadre d'un événement, donc j'avais pu réussir à avoir une demi-heure de son temps entre deux moments où son planning était bien chargé. Donc le timing était serré, ce qui avait rajouté une petite dose de stress à tout ça. Puis parce qu'elle avait aussi un avion à prendre pour rentrer, parce qu'elle habitait dans le sud. Voilà, l'événement était à Paris. Donc je m'étais muni de mon Zoom pour enregistrer. Donc on était vraiment dans un contexte très mobile avec un enregistreur, donc un Zoom H2N, et c'est tout. Et en fait, donc je commence l'interview, tout se passe bien, je me détends un petit peu, la personne est super sympa, et en fait au bout de 20 minutes je regarde mon micro et je me rends compte qu'il est éteint.
Non.
Donc là où je commençais un petit peu à me détendre, j'ai senti un petit peu les frissons me remonter le long de la colonne vertébrale, cette petite sensation qu'on a tous quand on a le sentiment que là on vient de faire une grosse bêtise. Dans ces moments, et puis forcément du coup je me rends compte de ça, elle était en pleine discussion, donc je me sentais pas de l'interrompre parce que du coup ça allait vraiment être très très pas professionnel. Donc je commence à prendre mon téléphone et à lancer le dictaphone en mode secours. Alors ça c'est vraiment le truc que je recommande à tous. N'hésitez pas à doubler votre enregistrement avec votre dictaphone de votre smartphone, parce qu'on a tous un smartphone dans la poche et ça peut vraiment vous sauver un enregistrement. Et j'ai réussi du coup à terminer l'interview comme ça, juste avant que le téléphone s'éteigne à son tour. Donc je me retrouve après une heure d'enregistrement en face de mon invité, je lui dis merci, je la raccompagne en étant dans ma tête en me disant ça se trouve j'ai rien du tout de la première demi-heure, c'est la catastrophe, comment je vais pouvoir lui expliquer ça, et en n'ayant plus de toute batterie. Donc en plus du coup il a fallu que j'attende le soir d'être rentré à l'hôtel pour pouvoir recharger les trucs parce que j'avais laissé mes affaires, enfin bref, gros manque d'organisation et d'anticipation de ma part à la base, première interview un petit peu à distance et tout ça, et la conclusion positive de tout ça, c'est qu'une fois que je suis arrivé, me suis rendu compte que j'avais loupé très très peu de choses. Je m'en suis vraiment rendu compte en bon moment. Au final, du coup, l'interview est quasi complète. Et en tout cas, il n'y a pas de perte de contenu et de qualité. Donc, j'étais hyper soulagé et j'ai pu revenir vers mon invité l'assurant que l'épisode du coup sortirait et que tout était bien passé. Donc, moralité, prenez des piles et des batteries et des chargeurs. Tout ce que vous voulez quand vous allez enregistrer en mobilité, parce que ça peut vraiment vous sauver une interview, quoi.
C'est clair, ça arrive même au meilleur. Mais ouais. Merci pour cette belle histoire.
Je t'en prie.
Ok, bah écoute Guillaume, merci beaucoup pour ce témoignage.
Merci à toi.
J'ai passé un très bon moment.
C'est réciproque, c'était cool.
Du coup, j'ai très très envie d'aller regarder toutes les séries que tu as recommandées et d'aller voir un peu les podcasts. Je vais aller faire ça.
Complètement, bah n'hésitez pas, effectivement on est toujours au-delà de l'envie évidemment de faire grossir la communauté, tout ça, on est toujours preneur des retours, on est toujours preneur d'échanger aussi sur les coups de cœur ou les coups de gueule des gens par rapport à notre médium de prédilection. Donc, à tous ceux qui écoutent ce Offcast, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur nos divers réseaux sociaux, ce sera avec plaisir qu'on partagera notre passion commune.
Nice. Salut Guillaume.
Salut, à bientôt.
À bientôt.